Pourquoi on vous fait jouer du Rock et Belles Oreilles en ce 15 mai 2021?
Ouais, pourquoi?
Parce que... C'était tellement bon en sketch. Parce que le 15 mai 1981, se formait un groupe humoristique qui est devenu un pilier de l'humour québécois et j'ai nommé évidemment Rock et Belles Oreilles qui a 40 ans aujourd'hui. En même temps, je lisais puis là, je comprenais que c'était Guilla et Richard Z. Sirois qui faisaient de la radio. Puis ils recrutaient tout plein de leurs chums. Ça a comme donné Rock et Belles Oreilles. Fait que je suis pas sûr de comprendre pourquoi l'anniversaire est aujourd'hui. Allons donc poser la question à André Ducharme, qu'on joint au bout du fil. Bonjour André.
Salut, tout d'abord, étiez-vous né?
Pas de tes affaires, ça.
Ben, moi, oui, même qu'on a déjà été quasiment collègues par la fesse gauche. Parce que moi, j'étais dans la jungle à l'époque où oui. Rock et Belles Oreilles avait un show réseau diffusé à Québec à notre station Chuchique FM.
C'est vrai. Il y avait beaucoup de similitudes entre la jungle et RBO à cette époque-là.
Tout à fait.
Pourquoi aujourd'hui?
Ouais, c'est ça, parce que Guilla et Richard Z faisaient de la radio à Montréal et recrutaient tout plein de chums. Grosso modo, c'est un peu ça.
Mais grosso modo, la première émission de radio, parce que Rock et Belles Oreilles, c'était d'abord et avant tout le nom d'une émission de radio, mais la première émission de radio de Rock et Belles Oreilles, c'était le 15 mai 81. Dans cette émission-là, dans cette première émission-là, tous les membres d'RBO, à part Chantal, qui est arrivée plus tard, mais tous les membres d'RBO étaient déjà dans cette première émission-là. Moi, je faisais partie, j'avais un segment dans cette émission-là, puis Bruno et Yves aussi. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas plus début d'RBO que le 15 mai 81. C'est vraiment là que ça a commencé.
OK, c'est ça. Donc vraiment, vous étiez déjà réunis, mais dans les mois ou peut-être les années précédentes, il y en a une méchante gang de monde qui sont passés par cette émission de radio-là.
En fait, dans les années suivantes.
OK.
Oui, c'est vraiment la première émission, c'était le 15 mai 81. Et dans, je te dirais, l'année et demie, deux ans qui ont suivi, c'était comme une espèce de melting pot où plein de monde pouvait aller, pouvait participer. C'était assez ouvert, mais tranquillement, pas vite, le noyau dur s'est formé, puis c'est passé d'une émission de radio à un groupe d'humour. C'était pas ça qui était pensé au début, c'était pas du tout ça.
Mais il faut dire que les changements sont arrivés rapidement, mais le succès aussi est arrivé rapidement. C'est quasiment un euphémisme dans votre cas, ça a été presque instantané, le succès d'RBO.
Ça a été pas mal plus long qu'on pense. Il y a comme un mythe autour. Oui, absolument. Il y a comme un mythe autour de ça parce que je te dirais pendant à peu près 3 ans et demi, c'était du bénévolat total et on ne savait pas du tout ce qui allait arriver avec ça. C'était vraiment, fallait vraiment avoir la vocation parce que moi je me rappelle là, des shows. On faisait nous-mêmes nos décors. On faisait des shows dans des cégeps où le monde s'en allait à moitié du show parce que les cours commençaient.
Ouais, j'ai fait une tournée des cégeps à un moment donné. C'est ça. La tournée mondiale des cégeps.
Mondiale des cégeps. Il y a eu des moments assez difficiles pour dire vrai, là. Et on savait pas du tout ce qui allait arriver avec ça parce qu'entre autres, nous, on faisait de la radio, d'humour. Et bon, ben, si on parle de la jungle, de bien placé pour comprendre, avant que la jungle et RBO arrivent à la radio, de l'humour à la radio, il n'y en avait plus. Mm-hmm. Et ce qu'on se faisait dire, c'est, vous êtes vraiment en train de perdre votre temps à penser faire de l'humour dans une radio commerciale. Nous autres, dans notre cas, ça a été C'est quoi? Fait qu'on faisait ça vraiment un peu parce qu'on n'avait rien d'autre à faire dans bien des cas. Il y a bien des membres d'RBO que c'était ça ou ben donc rien. En fait, c'était rien parce qu'on n'était pas payé bien cher. Mais finalement, c'est quand on est arrivé à C'est quoi en 84. Fait que là, on parle RBO 81 à CIBL, C'est quoi 84. C'est 3 ans et demi, presque 4 ans avant qu'on soit un peu connu. Fait que il y a eu un gros purgatoire RBO que ben les gens sont pas au courant parce que ça fait bien longtemps. Là, mais moi, je m'en rappelle en tabarouette.
Là, à un moment donné, ça décolle puis arrive la télévision à 4 saisons.
Exactement. La télé est arrivée en 85. Fait qu'on a fait à peu près 1 an et demi, 2 ans de radio, puis la télé, on était bien chanceux. Honnêtement, ça a été un concours de circonstances assez exceptionnel que, tu sais, t'as une station de télé qui commence à partir de rien. Ils n'ont pas une seule émission. Fait qu'ils prennent tout ce qui arrive, puis RBO faisait partie de ce package-là. Et comme il y a bien des émissions qui allaient tout croche à 4 saisons, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous autres. Parce que nous autres, ça marchait bien.
Ce qui est la meilleure affaire qui peut arriver, pas avoir le temps de s'occuper des créateurs comme vous autres, ça donnait...
C'est extraordinaire.
C'est ça, c'est ben
extraordinaire,
oui.
Parce qu'on avait une liberté absolument là, presque totale. Puis on pouvait faire où on voulait, puis ils s'en apercevaient même pas. Je veux dire, il y avait tellement d'affaires à régler que nous autres, c'était bon, les autres, là, on les laisse tranquilles, ça marche pas pire. Fait que ça nous a permis de garder un peu, je dirais, notre intégrité, c'est-à-dire de garder le style RBO, même si on passait à la télévision commerciale, de faire le même genre de niaiserie qu'on faisait avant, d'être aussi irrévérencieux, baveux qu'on l'était. Puis là, une fois qu'on était installé, il était trop tard, il ne pouvait plus nous dire ça, vous allez un peu trop loin. Non, gars, il est trop tard, il y a 1 million de personnes qui regardent. C'est ça qui était ça.
D'ailleurs, on entend souvent ça, tu sais, c'est un peu quasiment rendu redondant, mais on entend souvent aujourd'hui, ça passerait plus. Tu sais, les blagues d'RBO aujourd'hui, on pourrait plus faire ça, ça passerait plus. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'humour satirique, sur les caricatures et sur la satire en 2021?
Ben, c'est drôle parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand on me parlait de ça, moi je disais tout le temps, ben non, on pourrait faire exactement les mêmes affaires. Je te dirais que depuis une couple d'années, j'ai moins tendance à penser ça parce qu'il y a eu vraiment des gros, gros, gros changements. Entre autres, avec les réseaux sociaux, il y a eu vraiment, tu sais, à cette heure, dès que quelqu'un se sent offusqué par un gag ou par un commentaire, c'est pas juste en humour, hein, t'as vraiment une réaction qui est immédiate et qui est très forte. Comment on dirait avec ça? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'RBO, on a tendance on a toujours eu tendance à se foutre de ça. Nous autres, je pense qu'on s'en foutrait encore, mais je suis pas sûr que les diffuseurs s'en foutraient eux autres. Mmh, fait que je sais pas comment on réagirait. Tu sais, les dernières affaires qu'on a faites, ça a été sur scène en 2014-2015, quand on a fait show à place des festivals à Montréal, on a fait le Centre-Belle, on a fait le Centre Vidéotron. Ces shows-là, on a vraiment dit ce qu'on voulait, on a vraiment fait tout ce qu'on voulait, mais on était live sur scène. C'est pas comme si on avait été à la télé ou à la radio. Tu sais. Fait que en même temps, les bye-bye qu'on a fait en 2006-2007, on a fait vraiment ce qu'on voulait aussi. Mm-hmm. Un des sketchs qui est cité souvent comme étant un des plus osés d'RBO, c'est les Hard Games. Oui. On a fait ça en 2006. On n'a pas fait ça en 1987. Là, c'est quand même plus récent.
Le saut à perche, là, c'était quand même c'était quelque chose. Là.
Et ça a fait jouir beaucoup de monde que Guy Lepage reçoive ça dans le derrière. Ouais, pas pour rien que c'est lui qu'on avait mis là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, personnellement, ce gag-là, je le trouve drôle, puis je le referai encore. Puis à l'époque, il n'a pas dérangé personne. Il n'y a pas eu de montée aux barricades en disant « c'est bien effrayant ». Aujourd'hui, je dis ça, bon, là, c'est une bonne question. Faudrait être pris en mode création, savoir comment on dirait avec ça. Puis,
parce que c'est de trouver la façon, on va dire, intelligente de rire. C'est plus le sujet qu'on peut pas aborder, c'est la façon de le faire. Parce que, en général, l'impression, le regard de l'extérieur que j'ai sur RBO, c'est que vous êtes jamais trop laissé impressionner par les critiques, les plaintes, là. Le sketch, à l'époque, sur le Quatrième Reich, où les anglophones se faisaient placer dans des camps de concentration sous la supervision du grand fourreur Robert Bourassa.
Robert Bourassa, oui.
C'était à l'époque, bon, on n'est plus dans peut-être le type de dénonciation, les discussions qu'on a actuellement, mais les jokes de Quatrième Reich à l'époque, c'était pas doux quand même, là.
Non, puis je pense qu'aujourd'hui, là, si on avait à faire des sketchs, tu sais, moi je peux dire personnellement ce qui se passe avec la pandémie, puis avec les théories du complot, puis les conspirations, tout ça. Moi, personnellement, en tant qu'humoriste, là, je peux dire que je m'en paierais une tabarouette là-dessus, là, tu sais. Je pense que c'est un sujet. Je suis pas sûr que les complotistes aimeraient beaucoup rocker belles oreilles après un sketch qu'on pourrait faire sur eux autres, tu sais, parce que moi, c'est une affaire qui je trouve ça. Ben, tu sais, on a fait Héros de Civil.
C'est de ça que je pensais. J'avais Héros de Civil en tête, t'sais. André.
Ben, je pense qu'on ferait le même genre de sketch, tu sais, tu comprends? Moi, c'est des sujets qui viennent me chercher. Puis RBO, c'est en plein le genre de matériel avec lequel on a toujours eu bien du fun à travailler. Fait que c'est certain qu'un sujet comme ça viendrait nous chercher. Ce qui s'est passé aux États-Unis dans les dernières années, c'est sûr que ça viendrait nous chercher aussi. Fait que moi, je pense qu'RBO, on garderait notre esprit, mais est-ce que ça serait reçu de la même façon? C'est une excellente question, mais je pense que nous autres, on hausserait les épaules et on continuerait notre chemin. On a toujours fait ça.
Je veux te parler un peu de Tout le monde en parle, André. Oui. Parce que tu es scripteur sur l'émission, on dit aussi de toi que tu es la petite voix dans l'oreille de Guilla pour faire des jokes, pour puncher.
Je fais pas juste des jokes, je peux te dire ça.
Oui, effectivement.
Même que j'en fais pas beaucoup. Okay. C'est pas nécessairement à ça que je sers. C'est plus vraiment en appui d'entrevue. En fait, j'interviens pas mal plus souvent dans les entrevues sérieuses que pour faire des jokes.
Ah ouais? OK. Mais tu vois, j'avais vraiment l'impression que c'était plus pour l'aspect humoristique, mais tu me l'apprends.
Pas du tout.
Remarque, est-ce que ça change rien dans le fond à la question que j'avais envie de te poser? Je me disais, oui. Depuis les dernières semaines, depuis le départ de Danny, as-tu changé un peu ta façon de travailler? As-tu changé ta façon d'aborder ton travail à toi depuis ce qui est arrivé à Danny?
Non, absolument pas. D'autant plus que bon, on a laissé passer quelques semaines sans co-animateur, mais depuis quand même, quoi, ça fait un bon mois et demi qu'il y a quelqu'un maintenant qui est assis à côté de Guy. Non, moi, mon travail, c'est vraiment pas à ce niveau-là que ça se passe. Okay. Je suis en train de faire des scripts d'édition présentement, je suis dans des dossiers. Puis c'est plus un travail de. Je regarde l'entrevue, parfois je dis, il manque une question à cet endroit-là, pourquoi on parle pas de ça, si on devrait en parler avant, des fois je reformule des phrases, c'est okay. Vraiment plus à ce niveau-là que je travaille. Puis en fait, mon travail sur l'émission a beaucoup changé quand on est devenu live, c'est plus là qu'il y a eu des changements, parce que a fallu Guy et moi qu'on fasse des plans d'entrevue beaucoup plus serrés qu'avant, parce qu'on n'a pas le montage, donc on peut pas poser 25 questions pour en garder 15, on en pose 15. Fait qu'il faut mieux les choisir, faut travailler pas mal plus à ce niveau-là, je te dirais.
Puis comment t'as réagi quand t'as été mis au courant, ou peu importe, de la réaction de certaines personnes du public à l'égard de précisément d'Anaïs Favron, j'ai envie de dire, pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle a donné une entrevue à la presse où elle expliquait un peu les critiques, mais même parfois les menaces desquelles elle a été victime. Mais aussi parce que c'est une femme, puis on entend souvent que les gens sont beaucoup plus méchants puis plus sévères à l'égard des femmes dans le public. T'as réagi comment, toi, qui es aussi un auteur, mais un humoriste, un créateur?
Ben, écoute, des menaces comme celles qu'Anaïs a pu recevoir.
C'est absurde.
C'est toutes les personnalités publiques présentement reçoivent ce genre de menaces. Moi, j'en reçois régulièrement. Dès que je m'exprime sur quelque chose, si je voulais juste être sur les réseaux sociaux pour plugger mon émission, que dire ne manquez pas, comme je faisais dans le temps d'un souper presque parfait. Oui. Ce soir, un souper presque parfait à l'affaire, je recevrais pas de menaces. Mais dès que j'émets une opinion, dès que je fais un gag même, oui. C'est ça qui est flyé. Si je fais un gag sur tel événement qui est arrivé, je vais recevoir des trucs haineux, je vais recevoir des menaces, je vais recevoir la haine. C'est arrivé à Anaïs, c'est arrivé à Danny. C'est la raison principale pourquoi Danny est parti, c'est ça, il était plus capable. Je pense qu'il y a un gros questionnement de société à faire là-dessus. Puis on a beau dire, tu sais, ben, regarde, on s'en fout, occupe-toi d'en pas. Tu peux pas ne pas t'en occuper.
C'est pas si simple. C'est pas si simple de s'en foutre non plus. C'est un apprentissage, là, parce que c'est des jobs où tu veux plaire au public, tu veux plaire aux gens. Je sais de quoi je parle, là. C'est dur, en vrai, de faire comme, non, j'accepte que lui, il me traite de vidange, puis il m'envoie des photos de fumier. C'est pas vrai que c'est naturel pour un être humain d'accepter ça, là.
Ben, tu sais, puis ça peut aller plus loin que ça. Ça peut aller à, je sais à quelle école va ton enfant.
C'est un cas de 9-1-1, ça. Ouais.
C'est un cas de 9-1-1, puis effectivement, puis ce qui est le plus flyé quand ça se rend jusque-là, et quand ces gens-là reçoivent la visite de deux personnes en uniforme, c'est que ces gens-là font « Ah, excusez, je pensais pas que ça allait faire... Excusez-moi. »
Ah oui, c'est ça.
Ils sont pas conscients de l'impact de ça, eux autres. Pour eux autres, c'est quasiment comme s'il y avait personne à l'autre bout. Pour lire ces messages-là ou pour recevoir ces messages-là. Fait que oui, Anaïs, mais Anaïs, c'est quelqu'un, c'est un petit peu Anaïs, ça se laisse pas intimider facilement. Comme bien des gens qui mesurent pas beaucoup. On a cette caractéristique-là. Viens pas me chercher parce que ça va aller mal. Je sais pas pourquoi. Moi, j'oublie que je mesure 5 pieds. Fait que si tu m'écœures, j'ai l'air d'en mesurer 50. Fait que Anaïs est un peu comme ça. Fait qu'elle a pas niaisé. Elle dit, gars, moi, là, ça durera pas 3 semaines. Là, je m'en vais à la police direct. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis elle a sorti publiquement. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi quand ça arrive. Oui. C'est dire, hey, regardez ce qui se passe, là. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis des fois, tu reçois des affaires. Moi, sur un souper presque parfait, les participants, ils en ont reçu beaucoup de ce genre de messages-là.
Ah,
puis là,
ben
tu remontes à la source. Puis là, tu te rends compte que la personne qui écrit une méchanceté, qui n'a pas de maudit bon sens, c'est une grand-maman avec un caniche dans les bras. Voyons donc!
Ouais, j'ai l'impression. Ouais, peut-être que je généralise, là, mais j'ai l'impression que, du coup, c'est peut-être parce que les réseaux sociaux, même si on a l'impression que ça a toujours été là, mais c'est pas vrai. C'est nouveau encore pour bien du monde, puis il y a des codes aussi qui vont se définir. J'ai l'impression que les jeunes qui ont grandi avec ça tout le temps, ils réalisent que quand t'écris quelque chose sur Internet, ça demeure.
Ouais, ça a une portée qu'ils mesurent pas, dont ils sont pas conscients. T'sais, nous autres, à la radio, on mesure tout le temps, sans même s'en rendre compte, la portée de nos paroles. Mais ces gens-là ne sont pas habitués à ça.
Ben, la radio, je trouve que c'est un parallèle intéressant parce qu'avant ça, ce qui était le canal de communication du public, c'était les lignes ouvertes à la radio.
Oui.
Et les lignes ouvertes, ben, avant qu'une personne se retrouve en onde, il y avait des gens qui lui parlaient avant. Tu comprends? Mm-hmm. C'était pas une question de censure, c'est une question de juger de la pertinence du propos, de non, on regarde ça, là, on va pas là. Ben, sur les réseaux sociaux, ce filtre-là, il n'existe pas, tu sais. Mais en même temps, sur les réseaux sociaux, des gens vont t'écrire quelque chose qu'ils ne te diraient jamais dans la vraie vie s'ils te rencontraient sur un trottoir ou s'ils te rencontraient au centre d'achat. C'est ça qui est compliqué, tu sais. Si tu sors dehors, le monde est fin. Pourquoi sont pas fins ces réseaux sociaux, tu sais?
Peut-être pour les mêmes raisons qu'on crie plus fort quand on est dans notre char, les fenêtres montées que sur le trottoir quand on est à pied, tu sais.
C'est un peu ça. Mais il y a bien des questionnements parce qu'en même temps, parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais faut pas, c'est de la censure. C'est pas de la censure, là. C'est juste d'apprendre à vivre en société virtuelle.
Mmh. Hey, André, lundi 24 mai à 21h sur Nouveau. Mmh. Une émission spéciale sur RBO, RBO Top 40. J'invite tous les auditeurs qui ont trippé et qui trippent encore sur RBO à regarder cette émission-là lundi. Juste avant de partir, peux-tu nous donner un peu une idée de quoi ça va ressembler? Ça va être dans le fond une espèce de melting pot des meilleurs sketchs d'RBO, c'est-tu ça?
En fait, c'est Yves Pelletier qui a fait la réalisation de ça. C'est lui qui est arrivé avec l'idée. C'est vraiment 40 catégories. Alors, ça peut être autant meilleure parodie de publicité que pire telle affaire ou pire imitation de Guy Lepage ou meilleure imitation de Yves Pelletier. Okay. Et dans chaque catégorie, ben t'as des finalistes et t'as un gagnant. C'est comme un gala finalement, si on peut dire. C'est virtuel parce qu'on pouvait pas tourner, mais on est là, c'est-à-dire qu'on commande tout le long. On a fait une grosse session d'enregistrement de voix là-dessus. Fait que on rit de nous-mêmes beaucoup dans cette émission-là. c'est ça. Non, c'est fun à regarder, honnêtement. Moi, j'étais bien surpris. Il y a même des affaires qu'on n'a jamais rediffusées aussi, parce que il y a eu la série, est encore présente sur Crave, là, de 20 demi-heures, sur laquelle il y a beaucoup de on peut pas dire des inédits, mais des trucs vraiment qui ont été revus, même par nous autres, honnêtement. Et dans Top 40, t'as ça aussi. Et même des trucs qu'on a fait en dehors d'RBO, dans d'autres exemples, on avait été invité à parler pour parler de Jeannette Bertrand, mais il y a des extraits de ça. Oh, fait que c'est ça, c'est assez intéressant. C'est le fun.
Merci André d'avoir pris quelques minutes pour nous dans ta préparation de Tout le monde en parle. On te laisse retourner au boulot. Passe une belle journée. Merci beaucoup.
Merci à vous autres,
hein? Salut, bye-bye. André Ducharme, que vous connaissez évidemment, d'RBO, on lui parle. Parce qu'aujourd'hui, ça fait donc 40 ans depuis la diffusion de la première émission de radio dont le titre était Rock et belles oreilles. Il y a eu le rock de A à Z, ou une affaire comme ça qui est animée par Guy Lepage et Richard Z.
A à Z. J'aimais beaucoup le jeu de mots, moi.
Ah, c'est pour ça. Okay, ben, je l'avais même pas allumé.
Oui, Guy A, Richard Z.
Une chance qu'Alexis est là, le cerveau de l'émission.
Yves Pelletier s'est dit, je serais pas à part. Là, il y a aussi lettre. Fait qu'il a pris la même première lettre que son autre famille.
Puis André Ducharme, lui.
André Ducharme est un mouton noir.
Voilà.